dans les locaux de la police municipale de Lausanne. Arrêté en raison de soupçons d'activité liées au domaine des stupéfiants, le trentenaire a été victime d'un malaise. Il est décédé peu avant 22 heures. Le ministère public vaudois a indiqué hier que les policiers ont fait appel au SMUR et à une équipe d'ambulanciers qui n'ont pas pu le réanimer. Une enquête pénale a été ouverte afin d'établir les circonstances du décès. Karine Keller-Souter se rendra en Irlande cette semaine. La présidente de la Confédération assistera à l'inauguration d'une exposition sur les relations entre l'Irlande et Saint-Galles au Moyen-Âge. Lors de cette première visite présidentielle suisse dans ce pays depuis 2012, la ministre des Finances s'entretiendra avec le président Michael D. Higgins, mais aussi avec le premier ministre Michael Martin. Les discussions porteront sur les relations bilatérales entre les deux pays, leur politique européenne ou encore les relations transatlantiques. C'est un premier pont entre les deux côtés de la Sarine sur le dossier électronique du patient. L'association CARA, chargée du projet dans la plupart des cantons romands, va s'allier dès l'an prochain à deux partenaires alémaniques. L'objectif est notamment de centraliser l'infrastructure technique. Mais le chemin vers un minimum d'harmonisation nationale s'annonce encore long. La Suisse compte aujourd'hui 7 prestataires différents qui peinent grandement à se coordonner. Le président brésilien Lula souffre de labyrinthite. Il s'agit d'une infection de l'oreille interne. Le gouvernement a annoncé hier que le dirigeant de 79 ans, qui avait été opéré fin décembre pour drainer un hématome près du cerveau, s'est plaint de vertige. Il a alors réalisé des examens médicaux dans un hôpital de Brasilia. Les médecins lui ont prescrit du repos. Au Venezuela, la coalition de Nicolas Maduro va régner sur l'Assemblée nationale. Les forces politiques réunies autour du président ont obtenu la majorité absolue lors des élections législatives boycottées dimanche par une large partie de l'opposition. Elles ont remporté 256 des 285 sièges en jeu, a annoncé hier soir le président de l'Assemblée nationale. Un défenseur suédois débarque au Lausanne Hockey Club. Les dirigeants vaudois ont officialisé hier l'arrivée d'Erik Brännström. Le joueur de 25 ans qui a porté les maillots d'Ottawa et de Vancouver en NHL s'est engagé pour les trois prochaines saisons avec le LHC. Le soleil se montrera timidement ce mardi en Suisse romande. Un faible risque d'averse persiste jusqu'en début d'après-midi, surtout le long des Préalpes. Le temps s'annonce ensuite sec en toute région. Quant aux températures, elles grimperont jusqu'à 21 degrés en plaine. Et en mot du trafic pour terminer, prudence si vous circulez sur l'autoroute A9 entre Lausanne-Blecherette et Lausanne-Venne. Des objets sont signalés sur la chaussée dans les deux sens. Vous écoutez RTS Info, on se retrouve à 5h pour un nouveau point sur l'actualité.
L'actualité en continu sur l'application RTS Info.
Quand la scolarité obligatoire touche à sa fin, une grande question se pose, et maintenant ? Se projeter dans l'avenir, choisir un métier, un cap important et pas si évident. Le mercredi 28 mai, donnons la parole à celles et ceux qui vivent ou accompagnent ce moment charnière. La Ligne de cœur reçoit des actrices et acteurs de la campagne de sensibilisation. Après l'école, on fait quoi ? Dès 22h sur RTS Première. Des sons lumineux pour éclairer vos nuits sur RTS Première.
Une machine est-elle capable de comprendre et d'interpréter les émotions d'un humain? La réponse est oui, c'est ce que vous venez nous dire ce matin. Cécile Guérin, bonjour Cécile.
Bonjour Stéphane, alors attention, hein, ressentir de la joie ou de la colère, ça reste impossible pour une machine, elle n'a pas de corps. Mais en fait, elle peut reconnaître la palette des émotions, suggérer des comportements adéquats. Voici venu l'intelligence artificielle émotionnelle.
Ensuite, le sujet de la santé en prison, la santé physique et psychique dans ce milieu si particulier. Laurence Bolomé, bonjour Laurence.
Bonjour. L'enfermement, la promiscuité, le manque de mouvement ou de lumière impliquent en effet toutes sortes de risques, de la blessure à l'addiction, en passant par les troubles psychologiques et les infections. Bref, il s'agit d'un microcosme où tout ce qui touche à la santé est décuplé par rapport à la vie extérieure.
On évoque tout ça dans un quart d'heure avec vous, Laurence. Et puis pour terminer, Stéphane Delétro, vous allez nous parler d'un endroit sur Terre, un endroit où on ne risque pas de croiser beaucoup d'humains ni même d'animaux.
Un endroit appelé Point Nemo. Alors c'est ce qu'on appelle un pôle maritime d'inaccessibilité, autrement dit le point de l'océan le plus éloigné de toute terre immergée sur notre planète.
Voilà pour le programme, bonjour, bienvenue à vous.
CQFD, votre émission de science et de santé. Stéphane Gabiou.
Et voici donc un outil que vous avez peut-être déjà testé, un outil qui apprend sans limite et qui répond rapidement à toutes vos questions, même les plus saugrenues, avec de la patience, sans s'énerver à n'importe quelle heure du jour comme de la nuit. Cet outil, c'est l'intelligence artificielle, et pour être précis, il faut même dire intelligence artificielle générative, comme ChatGPT par exemple, GPT. Elle est en train de prendre beaucoup de place dans nos vies, elle suscite de la fascination, mais aussi de la crainte. Et voici maintenant qu'elle réussit mieux des tests d'intelligence émotionnelle que les humains, Cécile Guérin.
Mais alors si cette nouvelle vous donne le sourire ou au contraire vous attriste, vous met en colère, eh bien dites-vous qu'il vous reste encore ça. Vous ressentez ces émotions dans votre cœur, dans votre tripe. Et pour l'instant, l'intelligence artificielle, non, parce qu'elle n'a pas de corps.
Ouais.
Par contre, elle sait reconnaître les émotions, les comprendre, savoir comment réagir face à des situations complexes. Elle a effectivement obtenu d'excellents scores quand les scientifiques de l'Institut de psychologie de l'Université de Berne et du Centre interfacultaire en sciences affectives de Genève ont soumis 6 IA génératives à 5 tests d'intelligence émotionnelle. Et s'il a fallu en plus des années aux scientifiques pour développer ces fameux tests afin de mesurer les compétences émotionnelles des individus, eh bien les modèles d'IA, eux, ont créé ces nouveaux tests d'intelligence émotionnelle fiables et réalistes en un temps record.
Bonjour Marcelo Martillaro.
Bonjour.
Vous êtes responsable de recherche appliquée au Centre interfacultaire des sciences affectives à l'Université de Genève. Vous êtes co-auteur de cette recherche publiée dans Communication Psychology. Vous êtes spécialiste de l'intelligence émotionnelle. C'est quoi finalement? Est-ce que vous pourriez nous définir ce terme?
Alors, l'intelligence émotionnelle, ce n'est pas une chose. En fait. C'est une série de compétences que nous utilisons tous les jours. Il y a un aspect des reconnaissances des émotions, un aspect des compréhensions des émotions des autres, et aussi tout ce qui concerne la régulation de nos propres émotions et la gestion d'émotions des autres. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que d'un côté, on a la nécessité, l'habilité de comprendre qu'est-ce que nous ressentons, et les autres aussi. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec cette émotion? Qu'est-ce qu'on fait avec les émotions des autres?
Alors cette capacité donc à percevoir, à utiliser les émotions, c'est variable hein, entre chaque être humain. C'est pour mesurer ces différences que vous avez développé, notamment avec votre collègue Katia Schlegel de l'Université de Berne, un test de compétences émotionnelles. Ça consiste en quoi?
Alors, il y a plusieurs formes de tests, mais les tests que nous avons développés, c'est ce qu'on appelle un test de performance. Ça veut dire que ça pose des questions aux répondants qui sont des mises en situation. Donc, vous avez en tête peut-être des tests psychologiques traditionnels dans lesquels on vous demande si vous êtes d'accord avec une question, un objectif pour vous décrire. Dans les tests d'intelligence émotionnelle, en fait, c'est des mises en situation. On demande aux personnes de répondre de la manière dont ils se comporteront dans cette situation. Pour faire un exemple, on a une partie qui c'est la reconnaissance des émotions. Les participants vont regarder des vidéos, concrètement des gens qui expriment une émotion. Ils doivent dire c'est quoi l'émotion qui est exprimée dans la vidéo. Mmh. On a un autre sous-test qui est la compréhension des émotions. On demande aux personnes de dire c'est quoi l'émotion ressentie pour quelqu'un dans ces cas. Par exemple, Thomas reçoit la nouvelle qu'il va être promu pour une nouvelle poste dans son job. C'est quoi sa réaction émotionnelle? De la joie, de la fierté? Il faut choisir. Et après, il y a la partie régulation, dont on vous planche dans une situation émotionnelle qui vous concerne et on vous demande, vous faites quoi pour faire face à cette situation? Donc, par exemple, vous venez de recevoir une mauvaise nouvelle. Comment vous allez gérer cette tristesse que vous êtes en train de ressentir? Et dernière chose, dernière partie, c'est ce qu'on appelle compréhension des émotions des autres. Et on a une gestion de l'émotion de quelqu'un en face de vous. Par exemple, nos tests, c'est en milieu professionnel. Donc, il y a un collaborateur qui vient vers vous en colère pour quelque chose qui s'est passé. Vous allez réagir comment?
Alors, vous avez fait passer ces tests finalement à plusieurs modèles d'intelligence artificielle générative. Donc, c'est des modèles de langage qui sont capables de traiter, d'interpréter, de générer du langage. Et les résultats ont été très bons. Ça vous a surpris?
Alors, oui, dans le sens que ça fait 20 ans que je travaille sur les émotions, j'ai toujours eu la possibilité de parler avec des gens qui sont dans la recherche, mais non pas seulement, et ont une idée qui est très forte chez tous, c'est l'idée que les émotions, c'est quelque chose de très humain, donc c'était qui nous permettait de faire une distinction entre l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine. Et donc, en principe, si cette idée s'était appropriée, on n'aurait pas dû trouver des résultats tels qu'on a trouvé, dans le sens que les LLMs, donc les Large Language Models, c'est la manière de définir l'intelligence artificielle générative linguistique, ils ont eu des performances supérieures aux êtres humains dans les performances des validations du test. Et ça n'était pas prévu parce que une critique qu'on a eu dessus des fois, c'est l'idée que les tests, ils sont entraînés sur ce type d'informations. Mais ce n'est pas le cas. Parce que ces tests-là, au moins la majorité de ces tests, ne font pas partie du web. C'est quelque chose qui n'est pas accessible directement par la machine. Donc, c'est à propos de ça qu'on a été surpris. Ouais. Parce que ce n'est pas juste de l'apprentissage sur ces tests, mais c'est l'application d'un apprentissage qui a été fait par rapport à quelque chose d'autre.
Et donc, vous arrivez à expliquer pourquoi, ou peut-être plutôt comment les meilleurs scores des IA se constatent en comparaison des scores des humains?
Parce que, ça c'est une chose que je trouve que c'est très, très important à clarifier, les émotions ne sont pas une erreur, ne sont pas quelque chose d'irrationnel. En fait, les émotions, c'est un outil très rationnel que nous avons pour faire face à l'environnement, à la situation. Et donc, il y a une logique dans les émotions, dans la manière dont sont créées, dans la manière dans laquelle on les gère. Et je pense que c'est cette logique qui est un peu compris par l'IA dans ces cas-là. Donc okay. Il y a vraiment cette idée.
Parce qu'on se dit, c'est vrai, l'IA, elle a des compétences émotionnelles, mais sans ressentir elle-même les émotions, ça paraît paradoxal quand même.
Alors, avoir des connaissances ne veut pas dire être capable de faire des choses. Donc l'IA est capable de comprendre qu'est-ce qui se passe, mais ça ne veut pas dire qu'il serait capable de faire la même chose de la même manière.
Donc elle peut décoder. Alors une autre étape dans votre recherche, c'est vous avez demandé justement à ChatGPT-4 de générer des nouveaux tests de compétences émotionnelles. Ces tests que vous avez mis 10 à 15 ans à mettre au point, l'IA les a fait en un temps record, donc vous avez perdu votre travail, Marcello Montilano?
Non, heureusement, non. Moi, je pense que les outils comme l'IA sont des outils, effectivement, qui s'y sont mis dans les mains de quelqu'un qui sait comment les utiliser. Ils sont très puissants. Par contre, ce n'est pas quelque chose qui peut fonctionner sans l'être humain. Même dans ces cas-là, les tests, au moins les items, donc les éléments du test qui sont générés par l'IA, après, ils ont quand même besoin d'une validation dans l'avis d'un expert et aussi des tests avec les gens, donc des expériences réelles avec des données récoltées sur la population, sur les gens. On ne peut pas se fier tout de suite des résultats de l'IA, mais c'est juste une étape qui est simplifiée et raccourcie par rapport à ce que nous avons fait jusqu'à maintenant.
Et quels pourraient être les domaines d'application de vos recherches?
Il y en a plein, dans le sens que les tests qui existent déjà, ils sont des tests qui sont utilisés dans le recrutement, sont utilisés dans la formation, sont utilisés pour le développement personnel. Et on pourrait imaginer qu'un élément important qui manque aujourd'hui, c'est une personnalisation, si vous voulez, une customisation, si on dit des mots plutôt anglophones. L'idée, c'est vraiment qu'on peut adapter des instruments qui sont standards et qui s'appliquent plus ou moins à tout le monde, à avoir des instruments qui sont plus ciblés pour l'objectif spécifique qu'on veut atteindre. Donc, une entreprise qui a un sujet particulier peut développer des outils spécifiques pour ce dont on a besoin.
Mais une entreprise, imaginons des managers ou les ressources humaines, pourrait aussi essayer de décoder les émotions des personnes en fonction de tout au long de la journée. C'est un outil qui peut être à la fois magnifique et très dangereux.
Alors, ça, c'est toujours la manière d'utiliser les outils. Parce que l'outil en soi est très puissant. Ça dépend de comment il a été utilisé par les personnes qui utilisent ce type d'outil. Par contre, il faut savoir que tout ce qui est l'interaction entre l'être humain, nous avons ces compétences. Donc, ce n'est pas que nous sommes en train de développer de nouvelles compétences. C'est juste la manière qu'on transfère certains de ces éléments à l'intelligence artificielle. Mais moi, je suis moins préoccupé par rapport à ça, sauf si l'utilisation a un objectif de contrôle.
C'est ça. Marcello Montilano, admettons que je sois une personne, disons, peu habile émotionnellement, est-ce que je vais pouvoir apprendre, grâce à des exercices générés par l'IA, à mieux décoder, gérer les émotions?
Alors, peut-être, ça c'est la réponse, parce que ça dépend qu'est-ce qu'il va vous répondre. Parce que même si on pense standardisé, l'IA va répondre de manière différente à chacun selon des aspects complètement aléatoires qu'on ne sait pas. Et le problème principal, c'est que ce que nous avons aujourd'hui dans les interactions entre êtres humains, il y a une personnalisation, on se connaît, il y a tous les contextes qui jouent un rôle. Dans l'IA, tout ça, il n'y a pas. Et donc, ce serait un peu comme si on a la même formule qui s'applique à tout le monde, mais on sait que ça ne marche pas. Donc, peut-être que ça peut aider dans certains cas spécifiques, mais moi, je pense que la chose principale, c'est que ça puisse jamais pousser les gens à se référer à des vrais experts, grâce peut-être au feedback de l'IA. Donc j'ai des problèmes, je parle à l'IA, l'IA me pousse à parler avec quelqu'un.
Vous voulez dire toutes les personnes qui ont plus de facilité pour confier leurs états d'âme à l'IA parce qu'elles se sentent moins jugées qu'avec un psychologue, c'est déjà quelque chose qu'on observe. Mais donc vous dites oui, c'est bien si derrière elles vont voir un psychologue, mais peut-être qu'elles vont, ça va leur suffire les réponses de l'IA.
Alors, tout à fait possible. C'est que je ne sais pas exactement comment ça va être développé l'IA dans les futurs, dans le sens que l'interface d'interaction, etc., ça reste un... Pour le moment, c'est écrit. Mais comme vous avez mentionné avant, c'est qu'avec des vidéos, avec d'autres systèmes, ça pourrait être intégré dans des outils beaucoup plus puissants encore. Moi, je pense que c'est très important d'éduquer les gens à ne pas se fier complètement à l'IA. Donc l'IA, comme je disais avant, c'est un outil qui, si on le met dans les mains de quelqu'un qui sait l'utiliser, a des potentialités énormes. Mais c'est pas pour tous. Et ça, c'est un risque. C'est comme on a une voiture qui peut aller très vite, mais il faut être capable de la conduire. Sinon, ça va pas terminer bien.
Donc on avait déjà la difficulté d'apprendre à gérer les émotions. Maintenant, ça sera apprendre à gérer les émotions avec une intelligence artificielle. Ça complexifie un petit peu la chose. On observe aussi des personnes qui font écrire, on va dire, leur lettre d'amour ou leur lettre de rupture par ChatGPT parce oui. que finalement, c'est super bien. Il n'y a pas de mots qui ne vont pas bien. Émotionnellement, c'est parfait, etc. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, je pense que ça peut rassurer les gens qu'ils arrivent à écrire des choses de la meilleure manière. Par contre, on sait qu'il a encore toujours une réticence à accepter des messages qui sont générés par l'intelligence artificielle. Donc, ils ont fait des études qui ont montré que si on perçoit qu'un message est généré par l'intelligence artificielle, c'est moins apprécié que si c'est généré par quelqu'un d'être humain. Donc, heureusement, on a encore cette idée que ce qui vient de l'être humain a plus de valeur, ça reflète mieux les sentiments, l'intention de la personne.
Donc une lettre d'amour trop belle, méfiez-vous. En fait, en gros. Il y a des risques, hein, il y a des limites bien sûr éthiques, vous en avez parlé, mais il y a aussi dans la confidentialité des échanges, aussi des personnes qui peuvent être dépendantes à la machine parce que finalement elle répond tout le temps, on l'a dit, et en permanence ils peuvent être désocialisés. Est-ce que vous, en tant que psychologue, vous observez ça?
Alors, je pense qu'il faut vraiment commencer à raisonner à l'éthique de l'IA. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent, mais on ne comprend pas exactement s'il y a des guidelines, des instructions sur comment doit réagir la machine. Parce que, par exemple, l'exemple qu'on a fait ensemble avant, si quelqu'un s'y confie à la machine avec des troubles très importants, c'est indispensable que l'IA puisse aider la personne, pas comme clinicien, mais comme un conseiller qui dit « tu peux appeler ce numéro-là, tu peux te confronter avec quelqu'un ». Donc il y a un risque si la machine ne permet pas d'ouvrir la porte vers le monde, qui laisse la personne fermée dans une interaction qui n'est pas nécessairement positive.
Et si l'IA comprenait les émotions mieux que nous, si on résume un peu tout ce qu'on a eu comme échange maintenant, on peut peut-être poser cette question sous cette forme-là. Merci beaucoup pour vos explications. Pardon. Marcello Mortillaro, spécialiste de l'intelligence émotionnelle au Centre interfacultaire des sciences affectives à l'Université de Genève. Un vrai être humain qui était là en direct avec nous ce matin. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Cécile Guérin. Dans le reste de l'actualité, Cécile, nous sommes nombreux et nombreux à appuyer sur le bouton snooze. C'est le bouton du rappel, du réveil pour dormir quelques minutes de plus le matin.
Oui, ce bouton, d'ailleurs, snooze, ça veut dire roupillon. J'ai regardé la traduction, parce que c'est pas. Ça veut dire qu'on peut faire un autre petit roupillon de 5 minutes. Et en fait, ça perturbe la période de sommeil paradoxal juste avant le réveil. Une étude de la Harvard Medical School, publiée dans Scientific Reports, révèle que 56% des 21 000 utilisateurs de l'application Sleep Cycle l'activent régulièrement. En moyenne, sur les 3 millions de nuits analysées, les utilisateurs prolongent leur sommeil de 11 minutes par jour en appuyant plusieurs fois, plus de deux quoi. Et en fait, les femmes appuieraient un tout petit peu plus que les hommes. Seuls et ceux qui dorment peu, genre 5 heures, utilisent peu le rappel d'alarme. En fait, ils n'ont pas le temps de somnoler. Les experts recommandent plutôt de mettre le réveil à l'heure la plus tardive possible et de sortir du lit à la première alarme qui sonne.
C'est l'histoire d'une bactérie Borrelia transmise par les poux plutôt que par les tiques.
Oui, cette Borrelia recurrentis aurait évolué et divergé de sa proche parente transmise par les tiques entre 4700 et 5600 ans. C'est assez précis. Des scientifiques britanniques ont retracé l'histoire évolutive de cette bactérie en retrouvant des traces d'ADN anciens sur des restes humains. Ils estiment que cette adaptation aux poux du corps, dont le mécanisme aujourd'hui est assez flou, coïncide avec des changements sociaux au néolithique, notamment davantage de sédentarité, de densité des habitats, ainsi que l'usage des vêtements en laine. Cette recherche montre comment l'ADN ancien peut éclairer l'origine de certaines maladies.
Et enfin, un scientifique américain a étudié l'étrange comportement d'un jeune épervier en ville.
Cet épervier de Cooper utilise les embouteillages pour chasser ses proies. À West Orange, dans le New Jersey, le jeune rapace adapte sa stratégie de chasse au feu rouge et au fil de voiture. Il attend le signal sonore du passage piéton pour se cacher derrière les voitures qui sont alignées comme dans un embouteillage. Et ensuite, il attaque par surprise en volant à basse altitude les moineaux et les tourterelles qui étaient venus grappiller des miettes. Alors, ce comportement montre une planification spatiale assez rare chez les rapaces. Les chercheurs qui publient dans Frontières in Ethology observent aussi comment, bien sûr, les corvidés, les goélands et les faucons cresserelles s'adaptent aux infrastructures en ville.
Merci beaucoup, Cécile Guérin. On va partir en prison dans quelques minutes, Laurence Bolomet.
Pour y parler santé, car en situation d'enfermement, tout devient plus délicat. Les problématiques sont nombreuses et beaucoup plus importantes qu'à l'extérieur.
Oui, elle est belle quand je repense à nous.
QFD.
Père, quand je la vois au danser le soir, j'aimerais tellement la vie éternelle, toujours belle.
S'être un bonsoir, les courtes déesses, pas besoin d'être dans le sensationnel.
Elle est venue un jour depuis dessiner un soleil dans mes nuits les plus sombres. Elle dansait dans mes rêves, elle a mis de la couleur et des nuances à mon nom. Mais la lumière n'est jamais éternelle, donc pourquoi l'amour le serait? Elle danse toujours dans mes rêves, mais s'éloigne d'eau tournée.
Pour des filles comme toi, j'en ai fait plein des insomnies. Pour des jours meilleurs, tu sais, j'aurais donné ma vie. Mais là, j'en ai plus trop envie. Je suis perdu dans le vide, bloqué dans la nuit, cassé par les lights de la ville. Oh baby girl, l'humain est vil, même moi, choisirais l'ours. Tous pour soi, un pour tous. J'en ai fini de rêver, je crois qu'il est temps de tailler, d'oser le faire. Car tu sais qu'elle est belle.
Quand je repense à nous, quand je repense à nous, quand je repense à toi. Elle est belle. Quand je repense à nous, quand je repense à nous, quand je repense à toi.
Mais baby, le temps est passé. J'ai plus la force de recoller mon cœur que tu brises encore et encore. Je crois qu'il est temps de s'arrêter. Non, je t'aime, ce son est scellé. J'aime bien moins l'odeur de ton parfum d'yeux.
Je voulais tout, je voulais tout, je voulais tout. Je voulais tout, 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 tout de suite. La vie est courte, courte, donc court très vite. Bisous, sous, sous, sous le bruit de la pluie. On a fait l'amour tout, tout, toute la nuit. Et on s'est quitté pour tout. Toute la vie, sache que je t'aimerai pour toujours, comme ça, ça c'est dit. Oh, tu voulais ma mort, ta beauté m'a donné la vie.
Elle est belle quand je repense à nous, quand je repense à nous, quand je repense à toi.
Tu sais qu'elle est belle, tu sais.
Elle est belle quand je repense à nous, quand je repense à nous.
Toujours belle, une chanson de Sahel et Millie Rose, des artistes suisses.
CQFD sur RTS Première.
La santé en prison, c'est le thème qui nous intéresse à présent dans CQFD. La santé tant physique que mentale, parce que en situation d'enfermement, toutes les problématiques peuvent être renforcées. Laurence Bolomet.
Oui, de par la promiscuité, avec des risques d'infection qui se propagent plus vite ou des blessures à soi-même ou à autrui. De par la sédentarité et une nourriture pas toujours nutritivement exemplaire aussi, des études évoquent un vieillissement de la population prématurée en prison par rapport à l'extérieur. L'accès à des activités variées permet non seulement de se maintenir le plus en forme possible, mais aussi d'entrevoir des perspectives de réinsertion, on le verra. À noter que le non-accès aux soins peut être considéré comme de la torture. Il est d'autant plus intéressant de comprendre les spécificités de la santé en prison, de tout ce qui peut la mettre à mal et donc, à contrario, de tout ce qui peut l'améliorer.
Pour mieux comprendre cette problématique, nous accueillons Hans Wolf. Bonjour Hans Wolf.
Bonjour.
Vous êtes médecin-chef du service de médecine pénitentiaire aux hôpitaux universitaires de Genève et président de la conférence des médecins pénitentiaires suisses. Pour vous situer, vous êtes employé par les HUG et non pas par un pénitencier. Hein. C'est juste...
Exactement. C'est
j'imagine que ce statut est indispensable pour conserver votre indépendance et votre liberté d'action, c'est ça?
Tout à fait. L'idée. Donc Genève était le premier canton, voire la première république au monde d'avoir instauré cette indépendance par rapport aux autorités pénitentiaires et judiciaires. Et c'est un modèle qui est maintenant de plus en plus promu. Il y a pas mal de pays maintenant en Europe. La Suisse est très particulière. Il y a seulement 6 cantons sur les 26 qui ont l'indépendance de la médecine pénitentiaire par rapport à ces autorités. Et les autres ont souvent des styles mixtes. Et puis, le pire des modèles qui existent toujours aussi en Suisse, notamment à Zurich, c'est où le médecin est directement rattaché hiérarchiquement au directeur de prison. Et parce que ça ouvre la voie au potentiel conflit d'intérêts et puis des pratiques qui ne sont pas souhaitées.
Le directeur pourrait vous poser des questions sur l'état de santé d'un détenu ou sur ce qu'il a dit, ce qu'il vous a dit de manière intime?
Évidemment, moi je connais bien les médecins qui travaillent aussi à Zurich et je pense qu'ils vont certainement résister, mais il y a des situations où ça peut devenir très compliqué de résister parce que si c'est une situation qui est jugée politiquement extrêmement sensible, le médecin peut être mis sous pression et s'il doit choisir entre sa profession de garder son emploi ou de garder ou respecter la déontologie médicale, l'éthique médicale, c'est parfois difficile de faire ses choix. Je comprends très bien. C'est pour ça qu'il faut créer des systèmes qui sont clairs là-dessus et ça veut dire l'indépendance de la médecine au milieu pénitentiaire.
Alors, on va parler justement de cette santé. Alors, il n'est pas évident de séparer santé physique et mentale et pourtant, nous allons tenter de le faire. On va commencer par la santé physique et prendre les risques dans l'ordre ou dans un ordre. Premier risque, risque de maladies infectieuses et de contamination. Est-ce que vous avez des exemples et pour quelles raisons dans ce milieu fermé c'est particulièrement pointu?
Bon, on sort d'une grande crise avec le Covid. C'était particulièrement grave dans le milieu pénitentiaire. En Suisse et en Europe, il y avait peu d'études là-dessus, mais on a des études de très bonne qualité aux États-Unis. On a vu que le nombre de personnes infectées par le Covid ou qui sont décédées du Covid en milieu pénitentiaire, comparé à la population générale, a été vraiment beaucoup plus élevé dans les prisons américaines. Donc ça se propageait plus vite, les gens avaient un accès aux soins qui était problématique, les gens n'avaient pas l'information, ils n'avaient pas suffisamment de mesures de protection. Tout ça est un cocktail qui n'est pas souhaité pour un endroit où les personnes sont sous l'autorité de l'État, sous la protection de l'État.
Parmi les maladies, parce qu'on parle du Covid, mais il y a des maladies actuelles, puisqu'on espère que le Covid c'est pas actuel en ce moment, mais tuberculose, d'autres maladies?
De manière générale, on peut dire presque l'ensemble des maladies que nous avons dans la population générale, le risque est décuplé en prison. Donc toutes les maladies sont plus fréquentes, en particulier les maladies infectieuses. Donc la tuberculose reste un sujet d'attention. Donc chaque personne qui rentre en prison doit être screenée, ça doit être avec des questions et éventuellement des tests contrôlés par rapport à ça. Il y a d'autres maladies comme par exemple les hépatites, notamment l'hépatite C est une des grandes préoccupations parce que elle est beaucoup plus fréquente dans une autre population. C'est un autre risque de santé, c'est l'addiction. Les gens qui ont des problèmes d'addiction ont beaucoup plus d'hépatite C. Hein. Certains qui s'injectent la drogue, on sait qu'environ 70%, 80%, ça dépend, ont l'hépatite C. Et aujourd'hui, l'hépatite C est une maladie traitable. Donc, il faut la détecter systématiquement, il faut la traiter et laisser après partir la personne guérie dans la société. Donc, c'était aussi une contribution de la médecine pénitentiaire à la santé publique, à la population générale. Et nous comprenons, en tout cas à Genève et puis en Suisse, avec nos collègues, notre fonction comme ça.
Des détenus arrivent aussi en prison avec des maladies chroniques, je pense à un diabète ou une polyarthrite ou d'autres maladies. Comment est-ce pris en charge en prison? Est-ce qu'on prend en compte la douleur ou le respect de la médication?
Il y a des principes qui règlent ce travail en prison. Si on le fait bien, c'est des règles qui sont promu par l'ONU et également par le Conseil de l'Europe. Et un des principes auxquels vous référez, c'est l'équivalence de soins. Donc, on doit faire exactement comme à l'extérieur. Les personnes sont a priori gérées et traitées de la même manière. Néanmoins, il y a des différences. Par exemple, si un service de santé est mal organisé ou peu staffé avec peu de personnel, et si un bilan d'entrée n'est pas fait, parfois c'est fait seulement après quelques jours, et à ce moment-là, on peut louper ces diagnostics et l'accès au traitement est retardé avec des complications qui peuvent survenir entre deux. Donc on considère aujourd'hui, la recommandation, c'est de faire ce bilan de santé dans les 24 heures pour toute personne qui entre en prison.
Pour autant qu'il y ait les médecins à disposition.
Évidemment. Et puis on sait, en Suisse, il n'y a pas une médecine pénitentiaire homogène en Suisse. Il y a des modèles de très haut niveau, de très bonne qualité, et il y a toujours des cantons qui n'ont pas ou presque pas de service médical en prison.
Alors, on parle du service médical, on parle de la santé en prison, et puis quand on parle de santé, même au-delà de la prison, évidemment, forcément qu'on pense aussi à la nourriture, à l'alimentation, parce qu'on sait que bien se nourrir, c'est bon aussi pour la santé. C'est justement un sujet qui va nous emmener, d'une certaine manière, rencontrer ce monde de la prison sur le terrain. Donc, Laurence.
Absolument. Je vous propose la rencontre avec une mère et son fils, Baptiste. Nous sommes en France. Le jeune est sorti de prison quelques jours avant cette interview, après 3 ans et demi de détention. Et nous utilisons des pseudonymes. Voici ce qu'il a pensé de la nourriture dès son arrivée en prison.
C'est un choc total. Là, le choix est très limité et ça va être, pour la grande majorité, des produits de mauvaise qualité qui sont premier prix. Donc c'était difficile au début. Et puis avec le temps, on arrive à faire avec, à se cuisiner des petits plats, à essayer de retrouver un petit peu ce qu'on mangeait avant, enfin des saveurs qui se rapprochent. Et puis surtout, tous les ans, à Noël, on peut recevoir un colis de nourriture et bon, qui sont très contrôlés, mais on peut quand même avoir certains produits, voilà, comme par exemple du thé, du café, certaines épices.
Valérie, vous êtes la maman de Baptiste. Baptiste, je vous laisse boire votre café pendant qu'il est encore chaud. Quelles ont été vos pensées au début par rapport à la nourriture ? Est-ce que vous avez été inquiète pour votre fils, pour sa santé ?
Pour la santé en général, oui, vu la sédentarité, le peu d'accès à la lumière naturelle, et puis l'air ambiant, et puis au niveau alimentaire, on n'a pas trop parlé de ça dans un premier temps, mais c'est vite arrivé quand même, parce que c'est vrai que je me rappelle la description qu'il me donnait, c'était ce qui arrive donc, au plateau, là, le midi et le soir. Une mixture molle sans saveur. C'était un espèce de truc comme ça, sous plastique. Oui, voilà, sous plastique en plus.
Ce chapitre de la nourriture, c'est important, pensez-vous, quand on parle de prison ?
Ouais, je trouve que c'est un vrai sujet. Bah, manger, dormir, déjà, c'est la base. Donc, il y aurait un sujet à faire aussi sur le sommeil, là. Ça va loin aussi. Mais oui, l'alimentation, bien sûr, parce que c'est le peu de plaisir qu'on peut essayer de retrouver à cet endroit-là, quoi.
Vous disiez fondamental, c'est ça ? Pourquoi fondamental ce sujet de la nourriture ?
Parce que c'est une des rares choses qui ne change pas par rapport à l'extérieur. Et que ben, ce qu'on mange, ça va devenir une part de nous-mêmes. Donc, quand on est nourri par la prison, ben, y a beaucoup de personnes, dont je faisais partie, qui refusaient par principe le repas. Parce que déjà, on pouvait se le permettre parce qu'on avait de l'argent pour acheter ailleurs. Mais aussi parce que même si le repas du jour n'était pas spécialement, pas parmi les plus horribles, mais juste parce que ça venait de la prison. Donc, par principe, on le prend pas. Parce que c'est quelque part, c'est si assimilé, quoi. Donc ouais, c'est fondamental.
Ça a duré combien de temps, cette grève de la nourriture de la prison ?
Oh, c'est par période. Il y a des fois on est moins regardant, il y a des fois on a le poil qui se hérisse, on peut plus rien avaler. Ouais, voilà.
La nourriture en prison, avec l'exemple donc de ce jeune homme qui a connu la prison en France. Hans Wolf, on le rappelle, hein, vous êtes chef du service de médecine pénitentiaire pour les hôpitaux universitaires de Genève. Donc là, on est en France. Ce qu'on vient d'entendre, c'est la même la situation en Suisse, à savoir par exemple des produits rarement de première qualité, servis sous plastique.
c'est variable, mais on peut tout à fait, moi je me retrouve tout à fait par les récits des personnes détenues hein, qui se plaignent souvent des repas et les plaintes qui sont illustrées là se recoupent à beaucoup. Encore une fois, il faut dire la Suisse a 26 cantons, 26 formes de détention différentes et puis 26 certainement qualités de nourriture dans les prisons différentes.
Et à Genève, par exemple, le cas que vous connaissez
alors,
le mieux.
Alors, à Genève, on a beaucoup de plaintes par rapport à la nourriture, surtout pour des personnes qui ont des problèmes médicaux, qui ont une dentition qui est problématique, qui peuvent faire mâcher les choses. Après, c'est passé par le mixeur et puis ça devient comme une purée indistincte. Gable, donc, et qui pose beaucoup de problèmes sur le bien-être des personnes. Et je pense les prisons, et puis par mes fonctions dans le Conseil de l'Europe, j'ai pu voir ailleurs, notamment il y avait une fois une visite en Hollande, où la nourriture était préparée, congelée, distribuée pour toute la semaine. Les gens jetaient environ 90% de ces bacs. Et puis après, ils ont créé des programmes avec l'installation d'une cuisine et les gens ont pu acheter leur nourriture, cuisiner ensemble. Donc ça a amené de l'activité, du sens, de la joie quelque part. La prison était beaucoup plus apaisée. Donc la nourriture peut être un vecteur extrêmement intéressant pour la gestion d'une prison et est essentiel pour le bien-être des personnes.
On parle donc de la santé physique en ce moment pour les prisons. Dans les prisons, une des problématiques, c'est les blessures, soit qu'on s'inflige à soi-même, soit qu'on peut infliger aux autres. Vous pouvez nous donner quelques exemples?
Les blessures, notamment des actes autodommageables, sont, c'est un sujet qui est très problématique, hein, qui peut aller vers la suicidalité. On a vu, et puis on a fait les recherches, on a pu prouver par exemple que des actes autodommageables sont liés à la surpopulation. Donc si les conditions de détention se dégradent parce que prison surpeuplée, Genève est montée jusqu'à 235%, c'était un pic des actes autodommageables. On avait 10 fois plus de pendaisons, des gens qui se pendaient avec un risque mortel à tout moment. Et à ce moment-là, on a dit, il faut absolument comprendre ça. Et puis le seul facteur qui était différent par rapport aux années précédentes, c'était la surpopulation. Et après, quand la surpopulation a de nouveau baissé, elle est aujourd'hui à 135%, toujours surpeuplée, mais les actes autodommageables ont de nouveau baissé. Donc c'est vraiment un facteur extrêmement puissant pour dire, il y a danger, la santé des personnes est en danger, et puis il faut éviter ça à tout prix.
Il y a les blessures, bien sûr, aux autres, des cas de violence.
Évidemment, aussi des actes de violence entre les personnes détenues. Hein. Il y a des hiérarchies extrêmement puissantes. À Genève, nous avons des cellules où il y a 6 personnes dans la cellule. Vous rentrez dans la cellule, pour comprendre les hiérarchies, il faut un peu savoir qui a la télécommande dans la main. C'est souvent le chef de la cellule. Et puis, les personnes les plus vulnérables ont des places quand la prison était tellement surpeuplé, il y avait même des matelas par terre, donc c'était des personnes qui avaient des maladies psychiques, qui avaient peut-être aussi d'autres problèmes de comportement, de santé, qui étaient posées par terre, et puis cette hiérarchie dans les cellules, elle est forte, avec des agressions, des violences qui peuvent arriver à tout moment, et c'est aussi le rôle du service médical de documenter ça, de créer un cadre de confiance où les gens peuvent dire ce qu'ils ont vécu. Et puis ensuite, le service médical va établir un rapport, va envoyer ça à la direction de la prison avec l'accord de la personne et aussi au procureur pour investiguer ça.
La santé en prison, c'est le dossier CQFD de ce lundi matin. On va se retrouver dans quelques minutes pour parler, après la santé physique, de la santé psychique.
But at least I'm sure of all got flowers in the spring. I got to wear my ring.
Sonny Encher en 1972, cette chanson « I got you, babe ». La question de la santé en prison aujourd'hui dans CQFD, nous allons parler des problématiques mentales, du moral des détenus après avoir fait le tour des problèmes plus physiques. D'ailleurs, une activité qui fait du bien aux deux, c'est le sport. Laurence Bolomé, vous avez pu assister à deux séances de sport au pénitencier de Bellechasse dans le canton de Fribourg. Son nom exact, établissement de détention fribourgeois, site de Bellechasse.
Oui, et pour cette visite, j'étais chaperonnée, pourrais-je dire, par le responsable du sport, le coach, comme l'appellent les détenus, le coach Ayashia. Il mène tout d'abord une séance de fitness, une petite vingtaine de détenus y participent, puis du football en salle, car le terrain extérieur était en réfection.
Ok. On y va ?
Oui.
Le sport, c'est rien d'obligatoire. Donc ils viennent avec motivation. Donc s'ils n'ont pas envie de sport, bah, on accepte. Par contre, s'ils veulent venir au sport, ils sont obligés de travailler. Ça, c'est une règle essentielle. Ensuite, dans le sport, j'accepte qu'il y ait du bruit. C'est normal, là, on fait du sport, on fait une activité sociale. Et c'est tant mieux, je ne veux pas d'une salle de fitness où il y a zéro bruit. Ouais, vous pouvez commencer ces 4 séries pour tout le monde. Le travail en musculation ou toute autre activité sportive pour les détenus, ça leur permet aussi d'avoir une petite fenêtre où ils vont se sentir ailleurs. Allez les gars, on y va, on enchaîne.
Tu relâches les bras. Voilà, et tu vas monter avec le coude. C'est le coude qui monte ici. Voilà, parfait, c'est ça.
19,
ah, c'est fini, messieurs. On range. Allez, pas vous blesser à la fin comme ça. Si c'est pas bien rangé, comme vous avez vu sur la porte, c'est écrit qu'on va fermer le fitness pendant plusieurs semaines. Donc c'est déjà arrivé.
Il y a une volonté à la fois répressive et éducative de dire si toi tu prends du matériel,
c'est pour toi.
Tu punis tout le monde.
Exactement, ouais. Puis ça marche plutôt bien, justement.
Qu'est-ce que vous avez comme activité en extérieur, par exemple pour le milieu fermé ?
On ne différencie pas. Les deux milieux ont des activités à l'extérieur, donc que ce soit des barres de traction ou les activités encadrées avec moi, comme le crossfit, le football, le basketball. Et ils ont aussi de la pétanque, des tables de ping-pong pour l'extérieur. Donc on a vraiment une offre diversifiée pour le sport.
Quelle est justement la philosophie de Bellechasse pour le sport ?
En fait, le sport permet justement d'apaiser les gens, donc du coup des gens plus sereins aussi dans les bâtiments au niveau de la détention, et ça permet aussi de préserver le physique. On ne se rend pas bien compte l'enfermement, combien ça fait mal en fait au côté physique si on ne bouge pas, et ça permet de garder la santé physique et mentale. Je pourrais rajouter encore le côté social. Moi, je suis là pour aider à la réinsertion. Et justement, le sport permet ça. Au niveau des sports collectifs, le cadre, les règles et les logiques internes de chaque sport, on doit les respecter comme on respecte les lois à l'extérieur. Donc, on met en avant le sport parce que c'est un bon outil pour la réinsertion sociale, tout en gardant la santé physique et mentale des gens.
Comment vous trouvez la moyenne ? Parce qu'en effet, vous dites qu'il y a des règles à respecter puisque c'est un but de réinsertion, mais en même temps, il faut laisser une certaine souplesse parce que ça reste du sport.
Pour moi, d'abord le respect. Le respect des règles, mais le respect d'autrui. Donc tant que ça reste dans le respect, on peut crier, on peut montrer sa frustration, on peut être un peu énervé. C'est le cas dans les sports collectifs, hein, quand il y a quelque chose qui ne joue pas, ça peut nous énerver. C'est normal, c'est la compétition, c'est comme ça. Par contre, je veux que ça reste toujours dans le respect. Quand il n'y a plus de respect, là j'interviens et puis je lui dis stop. Donc là c'est sanction, donc soit des cartons pour le sport collectif ou une exclusion temporaire de l'activité tout simplement.
Donc le carton pour le match, un carton jaune, un carton rouge.
Voilà, exactement.
Mais vous pourriez dire tu reviens plus au foot pendant 2 semaines.
Alors carton rouge pour nous ici, carton rouge c'est 2 mois.
3. Ça fait 3. Bravo tout le monde, c'est fini. C'était très très bien, il n'y a pas eu de mots plus haut que l'autre, il n'y a pas eu d'insultes, et ça s'est déroulé tout dans le respect. Donc c'est parfait, quand ça se passe comme ça, c'est parfait. Il y a eu du contact, mais sans faire mal, c'est vraiment du foot, quoi. Il n'y a pas eu trop de fautes non plus, c'est vraiment une belle partie. Ouais. Ça fait plaisir quand ça arrive comme ça.
Bonne séance de sport, de foot en l'occurrence, et c'est vrai qu'on l'a entendu, le sport est important pour le moral des prisonniers, ça apaise, on se sent plus serein, c'est ce qu'on entendait effectivement à l'instant dans ce reportage que vous avez réalisé pour CQFD, Laurence Bolomé. Hans Wolf, on en vient justement aux problématiques psychologiques ou psychiques, là encore elles sont, on l'imagine, renforcées en milieu fermé.
Tout à fait. On se pose parfois la question où est la poule, où est l'œuf, hein. Est-ce que les gens qui sont plus malades ou plus fragiles psychologiquement ou psychiatriquement sont plus incarcérés ou est-ce que, à l'inverse, les conditions de détention, la dureté de l'endroit fait souffrir les gens et soit fait dévoiler une maladie psychique préexistante, voire crée tout simplement une maladie psychique.
Alors justement, il y a les maladies psychiques avec lesquelles on arrive, et c'est peut-être elles qui nous ont amenés à faire un acte répréhensible. Mais il y a toutes celles qui se créent à l'intérieur. Comment vous travaillez avec ces personnes qui ont des problèmes psychiques?
Bon, tout repose sur l'identification précoce. Je pense que c'est primordial d'identifier notamment des risques comme la suicidalité à l'entrée. C'est pour ça que chaque personne est vue dans les 24 heures et le plus vite possible. À Genève, par exemple, dans l'heure, généralement, elle est vue. Et puis ensuite, dès qu'un risque est identifié, à ce moment-là, il y a une prise en charge spécialisée, soit d'abord par les infirmiers, après il y a le médecin généraliste, il y a des psychiatres, psychologues, toute une approche d'équipe pour ces problèmes. On a même des dentistes qui nous signalent tout d'un coup, ce monsieur va pas bien, il faut le voir, et puis à ce moment-là, on discute en équipe et on va mettre en place une prise en charge adéquate.
Ça veut dire qu'il y a des réseaux de santé, en quelque sorte, comme il peut exister pour des personnes âgées, par exemple?
Bien sûr, c'est une équipe multidisciplinaire, c'est une approche multidisciplinaire, on communique, et puis pas oublier, c'est les agents pénitentiaires, qui sont vraiment ceux qui sont le plus en contact avec les personnes détenues, et qui nous signalent des personnes, celui-ci va moins bien, il est dans son coin tout le temps, il interagit moins avec les autres.
Donc ils ont une formation aussi dans ce sens?
Ils ont une formation de base. Nous, on aimerait qu'il y ait plus de formation, plus d'interaction, plus aussi des structures plus spécifiques à la prison. Ça existe dans certains cantons où des personnes qui sont identifiées comme vulnérables, qui n'arrivent pas à bien s'intégrer dans un groupe, de faire face à la certaine dureté, sévèreté du milieu, soit dans un milieu un peu plus protégé, où il y a plus de personnel, il y a moins de détenus, moins de densité, et il y a aussi un soutien par des équipes médico-soignantes et psychologiques pour assurer que les personnes ne décompensent pas et ne doivent pas ensuite être amenées à l'hôpital pour des séjours beaucoup plus longs.
Alors justement, une des solutions en cas de décompensation ou de problème psychique grave, c'est l'internement en hôpital psychiatrique par exemple. Mais là, on est dans une thématique encore un peu différente, un peu spécifique qui mériterait un autre sujet. C'est important parce que finalement, en internement, on ne sait pas quand on arrive au bout de notre peine. Et ça, c'est problématique pour l'aspect moral.
L'article 64 du code pénal auquel vous référez, l'internement, mais il y a également les personnes qui sont pour des mesures en milieu fermé, donc des mesures thérapeutiques en milieu fermé, qui sont jugées trop dangereux pour la société, mais pas coupables parce que la maladie psychique les a poussés à commettre le crime. Et ceux-là devrait être dans des structures comme un hôpital forensique, de psychiatrie forensique, comme Curabilis par exemple, à côté de Chandolan, donc à Genève. Et par contre, il manque des places. Il y a plus de 100 personnes actuellement en Suisse qui sont en détention ordinaire avec une prise en charge insuffisante de leurs problèmes de santé. Et pourtant, ils devaient être dans une structure de psychiatrie forensique.
Hans Wolf, que dire aux personnes qui disent « bon, c'est bien beau de s'intéresser à la santé des personnes en prison, mais occupons-nous déjà de la santé de monsieur et madame tout le monde ?»
Je peux entendre. J'entends souvent des critiques, hein, disant apparemment la prise en charge serait trop luxueuse en prison. Moi, ma réponse généralement, c'est je mets au défi des personnes. Est-ce que vous connaissez vraiment la prison? C'est souvent des images, parfois des certains films. Le milieu pénitentiaire est un milieu dur, qui est avec des bruits métalliques, des relations dures, parfois agressives, violentes. En plus, dès qu'on sort de prison, on a un stigma pour toute la vie. On trouve difficilement un travail, etc., etc. Mmh. Donc, la prison, c'est vraiment quelque chose qu'il faut éviter à tout prix. Et de dire qu'ils sont trop bien traités, c'est certainement quelque chose qui manque plus l'incompétence de la personne qui le dit que l'inverse.
On pourrait dire que soigner des gens en prison, c'est aussi soigner la société, parce que des gens en mauvaise santé seraient, au moment de leur réinsertion, en difficulté.
Absolument. Les maladies doivent être détectées en prison, ils doivent être traités pour que les gens qui sortent de prison soient en bonne santé et ne portent pas des maladies qui peuvent mettre à risque la population générale. Donc c'est vraiment une action de santé publique pour le bien de la société et c'est comme ça qu'on comprend notre fonctionnement et notre travail.
Merci beaucoup Hans Wolf d'être venu dans CQFD pour parler de la santé en prison. Vous êtes médecin-chef du service de médecine pénitentiaire aux hôpitaux universitaires de Genève et président de la conférence des médecins pénitentiaires suisses invité par Laurence Bolomet dans un sujet réalisé par Isabelle Barthes. Voyage au milieu du Pacifique dans quelques minutes avec vous Stéphane Delétro.
Dans l'endroit le plus éloigné de toute terre immergée, je vous emmène à la découverte du Point Nemo.
When I have rencontrated you, you was a jeune fille au père, and I put a spell on you, and you roll a pell to me, together we go partout. On my mob, it was super, it was Friday, on my mind, it was a story d'amour, it is not because you are, I love you, because I do, c'est pas parce que you are me, I am you, you was really beautiful, in the middle of the fool. Don't let me misunderstood, don't let me, sinon I would. My loving, my marshmallow, you are belle and I are beau. You give me all what you have, I say thank you, you are bien brave. It is not because you are, I love you, because I do. C'est pas parce que you are me, I am you. I am you. This is a musical bridge. I wanted marry with you and make love very beaucoup to have a max of children just like Stone and Chardin. But one day that must arrive. Together we disputed for a stupid story of freak. We decide to divorce. It is not because you are, I love you, because I do. C'est pas parce que you are me, I am you, I am you, I am you.
Le cours d'anglais de ce lundi matin vous était proposé par Renaud, extrait de son album Marche à l'ombre, sorti en 1980. It is not because you are. Si vous aimez la solitude, impossible de faire mieux que le Point Nemo, Stéphane Delétro.
Impossible, effectivement, puisque les terres les plus proches sont à plus de 2500 km de distance. Très exactement à 2688,221 km de trois îles. Alors au nord, vous avez l'île Pandorale, c'est une des quatre îles Pitcairn, à mi-chemin entre le Chili et la Nouvelle-Zélande.
Ouais.
Au nord-est, Motunui, un îlot proche de l'île de Pâques. Et puis au sud, l'île Maher, le long de la côte de l'Antarctique. Et à l'exception de Pitcairn, eh bien, elles sont la plupart du temps inhabitées. Si vous voulez plus près, il vous faut lever la tête.
Donc en étant sur le point Nemo, voilà, je lève la tête.
Eh bien, entre 330 à 410 km au-dessus de vous, il y a à intervalles réguliers les occupants de la Station Spatiale Internationale.
Qui passent de temps en temps.
Voilà. Et tous les 4 ans, les skippers du Vendée Globe à la course à la voile autour du monde en solitaire, sans escale ni assistance.
Stéphane, vous avez parlé d'île. Le point Nemo, c'est une île aussi ?
Non, non. Alors, c'est ce qu'on appelle un pôle maritime d'inaccessibilité, autrement dit, le point de l'océan le plus éloigné de toute terre immergée sur notre planète. Alors c'est un point situé dans l'océan Pacifique Sud. Je vous donne ses coordonnées pour vos prochaines vacances.
Mais avec plaisir. Hein,
ça se trouve très exactement noté à 48 degrés 52 minutes 31 secondes de latitude et 123 degrés 23 minutes 33 secondes de longitude.
C'est noté.
Mais je crains que vous y ennuyez.
C'est-à-dire pourquoi ?
Voilà, il n'y a rien à voir, à part de l'eau évidemment, hein, puisque vous vous trouvez en plein Pacifique Sud, au large, mais vraiment très au large des côtes chiliennes. Quoi que quand je dis rien à voir, ce n'est pas tout à fait exact.
Quelques poissons ?
Ben, figurez-vous qu'un courant empêche l'arrivée d'eau chargée de nutriments, et en raison encore une fois des milliers de kilomètres avant des terres immergées, les apports en matière organique transportés par les rivières ou le ruissellement des sols sont inexistants. Alors oui, quelques poissons et des micro-organismes, mais le point Nemo tient plus du désert biologique que du jardin d'Éden.
Ok, donc peu de poissons, un sous-marin peut-être ?
Comme le Nautilus, hein, le sous-marin du héros de Jules Verne, oui. Le misanthrope Capitaine Nemo. Pas exactement, des épaves de vaisseau, oui, 300 morceaux d'épaves spatiales, et notamment la station Mir. Une vaste zone autour du point Nemo est en effet utilisée comme cimetière pour les vaisseaux spatiaux obsolètes, mais encore contrôlables. Ce devrait être d'ailleurs la dernière destination de l'ISS, hein, la Station Spatiale Internationale, en 2031. Et puis, je sais que vous n'aimez pas ça, Stéphane. Hein.
Ne me dites pas qu'il y a un monstre.
Deux, même. En 1997, des océanographes ont enregistré un son mystérieux qui a été baptisé de bloop. Un bruit plus fort que celui émis par une baleine bleue. Bon, en fait, bon, il s'est avéré que c'était le bruit d'un iceberg en train de se détacher.
Okay.
Par contre, le second monstre, il vit toujours. Kololu, c'est une gigantesque créature extraterrestre malfaisante à tentacules de pieuvre, imaginée par Howard Phillips Lovecraft, que le romancier américain a placé dans cette région.
Très bien, bon, voilà, me voilà rassuré. Une question encore, Stéphane, qui est à l'origine de ce point Nemo ?
Alors, c'est un ingénieur géodésiste canadien d'origine croate qui a défini ce point. Vrodjie Lukatela travaillait pour IBM. C'est grâce à un logiciel qu'il a mis au point qu'il répondra à une question de géographe et d'océanographe américain et déterminera en 1902 le point le plus éloigné de toute Terre, point qu'il baptisera donc Nemo en hommage, vous l'avez compris, au héros de Jules Verne, ouais, qui le fascinait enfant. Le point Nemo d'ailleurs qui fascine également le chanteur Renan Luce.
À l'endroit où plus une terre ne renvoie d'écho, y a le point Nemo. Mais pourquoi alors, nous on reste au port, on ne monte pas à bord d'un bateau?
Bonne question.
Je crois qu'on vous a apporté quelques éléments de réponse.
Oui, effectivement. Le point Nemo, je suis pas effectivement certain d'avoir suffisamment le pied marin pour monter sur un bateau comme le souhaiterait peut-être Renan Luce. Vous n'auriez pas quelque chose, je sais pas, à nous proposer sur le plancher des vaches ?
Alors, si Nemo est bien le pôle maritime d'inaccessibilité, il y a un pôle terrestre d'inaccessibilité. Mais il n'y a pas unanimité sur la question. Certains le situent en Chine, à 2645 km de la côte la plus proche, dans le désert de Zhou Sotoin Elizen. Garantis pas la prononciation. Surtout qu'il est également connu sous le nom de désert du Gurban Tungut. Sachez simplement que c'est dans le nord de la province autonome du Xinjiang. Alors que d'aucuns le situent dans deux autres endroits, mais toujours dans le nord de la Chine. Alors ça, c'est pour le monde.
Mmh. Il y a d'autres pôles terrestres ?
Ah oui, par continent. En Afrique, il se situe près de la ville d'Obo, à proximité de l'endroit où se croisent les frontières de la République centrafricaine, du Soudan et de la République démocratique du Congo. En Amérique du Nord, c'est dans l'état du Dakota du Sud, et en Amérique du Sud, au Brésil, dans l'état du Mato Grosso. Et je vous fais grâce du pôle sud et pôle nord d'inaccessibilité.
On sera d'ailleurs parti, non pas du pôle nord et du pôle sud, mais du point Nemo. Le point Nemo, c'est le départ de ce voyage que vous nous avez proposé ce matin, Stéphane Delétro. Merci beaucoup. Demain, dès 10h, dans CQFD, notre dossier sera consacré à la pédiatrie et en particulier aux stratégies pour éviter des souffrances aux enfants quand ils sont hospitalisés. Parce que c'est vrai, quand on est un petit enfant et puis qu'on doit se retrouver à l'hôpital, souvent on a peur, évidemment. On a aussi la crainte de la douleur. Et donc, on va voir de quelle manière, notamment aux hôpitaux universitaires de Genève, on essaie de prendre au mieux en charge ces petits patients.
Les émissions de la journée pour accompagner vos nuits. RTS Première, il est 5h.